Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 8, une première piste. Et oui, on s'était quitté lors de la précédente, le précédent épisode. Je vous avais dit que l'histoire changerait, donc qu'il y aurait un rebondissement. Et oui, en effet, on se retrouve d'ailleurs le 7 décembre 1920, c'était un mardi. Mais ce qui change principalement, c'est qu'on change de ville complètement. Les sept premiers chapitres, on tournait autour de Québec parce que, évidemment, hein, on aura compris que le drame, c'est là qu'il s'est déroulé. Donc, Blanche Garneau a été assassinée à Québec. Mais la suite, on connaît une drôle de suite, vous allez voir ça, à Montréal. Et même, ça se passe au Palais de justice de Montréal. Pourquoi que ça se passe au Palais de justice de Montréal? Eh bien, c'est, l'histoire, en fait, part des témoignages qu'on verra plus tard lors du procès qui aura lieu et surtout de l'enquête royale, la commission d'enquête royale. Donc, c'est à partir de là que j'ai reconstitué ce chapitre-là. Mais là, je l'ai placé actuellement en chapitre 8 pour respecter l'ordre chronologique. Donc, c'est surtout à partir du témoignage d'un homme, d'un nouveau personnage qui s'ajoute à notre histoire, c'est le détective privé Joseph Valade. Et oui, à cette époque-là, il y avait des détectives privés qui, c'est pas clair la fonction qu'ils avaient, ils se mêlaient un peu de choses et autres. Bon, on sait que les détectives privés aujourd'hui n'ont pas le droit d'enquêter sur des meurtres, c'est assez évident, ils n'ont pas la formation. Bon, ça paraît cool comme ça, les détectives privés, on a vu aux États-Unis des séries américaines, Magnum P.I. et compagnie, même Harry Bosch qui lui fait le contraire, est policier et devient détective privé par la suite. Mais on va s'en tenir ici au Québec, les règles ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis. Et ici, les détectives privés, sans dénigrer leur travail, ben c'est assez limité, là. Quand on parle de meurtre ou d'homicide, là, ils n'ont pas d'affaires là-dedans. Mais en 1920, les règles semblaient différentes. Bon, d'abord, Joseph Valade a 42 ans et il était assis, lui, sur un banc du Palais de justice de Montréal, à côté de son ami Paddy Lynch, en train de lire le journal, tout simplement. Et c'est à cet instant qu'il a soudainement reconnu un homme qui dévalait dans le corridor. Et c'est un... J'écrivais dans le temps, je le traitais d'hurluberlu, mais vous allez voir que c'est tout un personnage. Il s'appelait Henri Duval, alias Cazobon. Bon, Cazobon, on s'obstinera pas longtemps, il y a différentes façons de l'écrire, mais puisque c'est une balado, ben, on s'en fout, on va dire Cazobon, that's it. Donc, ce Cazobon-là était en costume dépareillé. Là, évidemment, tout ce que je dis ici, c'est basé sur le témoignage que livrera plus tard Joseph Valade ou le carnet de ses enquêtes là, qui a été conservé dans le dossier judiciaire. Donc, Cazobon était dépareillé, les cheveux en bataille. Donc, il avait l'air d'un gars pas mal en désordre. Et il se faisait aussi surnommer Tinoir. Et il titubait pas mal quand que Valade l'a vu dans le palais de justice. Donc, ce qu'on sait, c'est que Valade l'a vu, mais Duval l'a pas vu tout de suite. Donc, Tinoir l'a pas vu. Valade se cachait derrière son journal, puis c'est là qu'il a vu Duval s'arrêter devant le messager Miller pour lui demander à voir un juge. Donc, il arrivait au palais de justice, lui, pour voir un juge. Gentiment, ben le messager l'a conduit jusqu'à la porte du bureau du juge Langteau. Ça laisse entendre qu'à cette époque, n'importe qui pouvait rencontrer un juge, mais Miller s'est rapidement aperçu de l'haleine alcoolisée de son interlocuteur et il a changé rapidement d'avis, puis il a demandé de quitter les lieux immédiatement. On raconte que, évidemment, on passe toujours à travers les yeux de Valade là, pour raconter ce qui se passe là. Tinoir a reculé de quelques pas avant de sortir une allumette de sa poche. Il refusait tout simplement de partir, alors Mailer a répété son avertissement et on imagine qu'il a haussé le ton à ce moment-là. Mais avant que ça n'éclate, ben là, c'est Valad qui a décidé d'intervenir, donc il s'est levé, puis puisqu'il connaissait un peu Duval, ben il est allé à sa rencontre, et c'est ce qui a empêché peut-être une altercation quelconque, donc il lui a demandé, et là aussi le dialogue est reconstitué à partir du témoignage que Valad a fait plus tard, donc Valad lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a, Tinoir? » Et soudainement, on ne s'attendait pas à une réponse comme ça. Duval, il répond tout simplement « Ce n'est pas moi qui ai tué Blanche Garneau, c'est les deux autres. » Oh! Pourquoi Blanche Garneau? Valad, premièrement, ce qu'on va apprendre, c'est qu'il n'était même pas au courant du meurtre de Blanche Garneau. Lui, il travaillait à Montréal, puis il n'en avait pas entendu parler, encore, malgré le battage médiatique. Donc, voyez-vous, c'était curieux. Lui, il ne comprenait pas. Mais bon, il a quand même compris qu'il y avait quelque chose là, donc Valad l'a entraîné un peu à l'écart, puis il lui a demandé « C'est qui ça, Blanche Garneau? » Puis là, Cazobon ou Duval a répondu « C'est la fille qui a été tuée à Québec, à la Petite Rivière. Ce n'est pas moi qui l'ai tuée, c'est les deux autres. » Bon, il répétait encore cette phrase-là, mais c'est quoi cette affaire-là? Y avait-tu été témoin de quelque chose ou pas? Ensuite, c'est un peu chaotique ce que Duval a révélé. C'était un peu décousu, donc, mais on sait qu'il l'a mentionné, en tout cas selon lui, il a mentionné quelques détails à propos du meurtre, et il a même dit, attachez votre tuque, que la victime avait eu des morsures au mamelon. Hein? Demandez-vous si vous avez entendu cette information-là auparavant, mais bon, je continue. Mais à l'entendre, il possédait aussi des informations privilégiées sur ce meurtre, d'autant plus qu'il se trouvait à Québec à cette époque, puisqu'il faisait partie du Royal 22e Régiment. Là, on comprend mieux pourquoi il y avait des informations, donc ça devenait un petit peu plus crédible, au lieu d'avoir un gars de Montréal, tout soudainement, qui lance ça comme ça. « Ah non, c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est les deux autres. » Donc, peut-être une petite erreur ici de la part de Valad, au lieu de l'amener avec lui, c'est sûr qu'il n'y avait pas de pouvoir d'arrestation à ce moment-là, hein. Il n'y avait aucune raison de l'accuser de quoi que ce soit, Valad a convenu avec lui, parce que là, lui, il connaissait pas le dossier, l'affaire Blanche Garneau, donc il voulait se renseigner avant de continuer. Alors, il a donné rendez-vous à Duval, au coin des rues Vitry et Saint-Laurent, pour 17h ou 18h environ. Évidemment, en bon stratège, il espérait que ce délai-là puisse permettre à Duval de dessouler un peu puis d'être un petit peu plus cohérent dans ses informations. Et pendant ce temps-là aussi, que ça lui donnerait le temps de se renseigner sur cette affaire-là. Donc, il était 14h30 ce jour-là. Sa curiosité professionnelle l'a amené à se rendre directement au bureau du chef Dan Lorrain. Oui, oui, oui. Vous vous en souvenez, Dan Lorrain, c'était en quelque sorte le président, le directeur de la police provinciale à cette époque-là, donc l'ancêtre de la Sûreté du Québec. On se souviendra d'ailleurs que c'est à la demande du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau que Dan Lorrain s'était rendu à Québec au mois d'août pour assister à une partie de l'enquête du coroner. Donc, est-ce que ça avait donné quelque chose? On ne sait pas, mais au moins, il avait été assisté, donc il était au courant du dossier. Évidemment, il était loin de se douter qu'après des mois de silence, de stagnation, parce que le dossier n'avançait pas du tout, il était loin de se douter que Joseph Valad débarque ce jour-là dans son bureau. Il s'est assis devant lui, puis là, ils ont raconté un peu, Lorrain, c'est-à-dire lui a raconté, lui a fait un résumé du dossier. Et quand le détective privé, lui, a raconté sa mésaventure avec Henri Duval, évidemment, ça a capté l'attention de Dan Lorrain, c'est bien évident. Alors, sans attendre, Lorrain lui a donné 5$ pour couvrir ses frais de déplacement. Et Valad connaissait bien l'insensibilité de Duval, a demandé qu'on lui attribue la compagnie du détective Georges Hector Rioux, c'est-à-dire le bras droit de Lorrain, parce qu'il sentait qu'il en aurait besoin maintenant là, pour peut-être pas arrêter, mais essayer de l'encadrer, essayer de retrouver Duval. Mais malheureusement, Ryu n'était pas disponible. Alors, le chef lui a offert un dénommé Larivière, donc il lui a quand même attribué un agent pour l'aider dans sa démarche. Pendant ce temps, il y a Paddy Lynch, le fameux compagnon de Valade, qui a repéré vers 16h30 Henri Duval. Donc, ça voulait dire que Duval avait au moins respecté son rendez-vous. Il était un petit peu tôt, par contre. Et puis, Valade lui a demandé d'essayer de le retenir ou de le suivre le temps d'arriver sur les lieux par les tramways. Et une fois qu'il était sur place, ben Valade a compris malheureusement que l'oiseau s'était envolé. Eh oui, Duval était incapable de rester en place. Lynch avait essayé de le suivre, mais bon, c'est là qu'un genre de chasse à l'homme. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il se sauvait? C'est pas l'impression que j'ai eue là, quand j'ai consulté le dossier judiciaire. C'était plutôt, je pense, un personnage là, qui buvait, qui restait pas en place, là, puis il faisait peut-être la tournée des bars. Peut-être pour ça qu'il était difficile à suivre. Et bon, les techniques d'enquête, hein, à cette époque-là, on n'avait pas nécessairement de voiture, peut-être, là, à leur disposition pour suivre quelqu'un à travers la ville. Donc, ça devait pas être facile. Finalement, ben, on a fini par lui mettre la main au collet et on a évité de l'amener dans les maisons closes. C'est ce qu'on dit parce qu'on connaissait la réputation de Duval envers les femmes. Et ben, j'ai l'impression que c'était quelqu'un de porté sur la chose. Donc, est-ce qu'il fréquentait des prostituées de façon régulière? Je ne sais pas, mais sans avoir de préjugés aussi, hein, il avait séjourné dans l'armée. Et dans l'armée, on sait que, en tout cas, si vous ne le savez pas, vous êtes naïf. bon, là, ils se sont mis à le questionner parce que là, enfin, on l'avait à la portée de la main. Et là, ce qu'il a dit, c'est que, il a dit cette phrase, « Un homme peut user d'une femme, dit-il, mais la manger comme ça, trois petits points de suspension. » Donc, je ne veux pas faire du porno ce soir, mais la manger, ça veut dire normalement genre de cunnilingus ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il laisse entendre? Est-ce qu'il laisse entendre que les... Parce qu'il parlait de deux tueurs, lui. Il était comme les journaux, lui. Il était du même côté que les journaux. Bon, c'est ça. Est-ce que... Mais normalement, quand on parle de manger sa victime, faut prendre son temps ou ça veut dire que la victime est maîtrisée. Sinon, on va se débattre, là. C'est bien évident. Puis, il a répété aussi ces fameuses morsures au sein. Écoutez, on a eu l'autopsie du docteur Marois, puis jamais, en deux témoignages, qu'il a parlé de morsures au sein. Donc, est-ce que c'était une invention de Duval? Moi, je pense que oui. Donc, voyez-vous, c'est là que ça devient important de protéger, de un, la scène de crime, et aussi de protéger les informations que les enquêteurs recueillent. Parce que si on donne tout dans les journaux, comme c'était le cas ici, ben, il ne reste plus beaucoup d'éléments pour confondre le tueur ou un éventuel suspect. Mais là, Duval se tire dans le pied un peu. Là il invente cette morsure-là au sein. Bref, c'est déjà arrivé au Québec, là, des causes comme ça, mais là, en tout cas, c'est une absence d'information qu'on a au début, mais bon, il n'y en a pas de morsure au sein. Et pourtant, son discours va tourner tout le temps autour de ça. Est-ce que c'était la boisson qu'il faisait ou c'était un fantasme quelconque? Mais ça devenait quasiment comme une fixation. Et à l'arrivée du détective Larivière, Lynch retourné chez lui, donc ils l'ont laissé à ce moment-là avec Valade et Larivière qui ont saisi Duval, puis bon, il y a eu une bousculade là, à un moment donné, c'est ce qu'on comprend là. Et il s'est mis à crier à tue-tête à un moment donné en pleine ville là, le nom de Blanche Garneau. Et même en ajoutant qu'il était innocent de son meurtre. Mais là, les gens devaient se regarder parce que si Valade n'était pas au courant, du meurtre de Blanche Garneau. J'imagine que principalement la population à Montréal était probablement pas au courant. En tout cas, c'était pas généralisé, j'imagine. Alors, on devait se demander c'était quoi qui se passait à ce moment-là dans la rue. Le lendemain matin, le 8 décembre 1920, on ne sait pas ce qui s'est passé vers la fin de soirée la veille, mais Valade et Larivière sont revenus dans le bureau de Lorrain. Pour lui apprendre que malheureusement Henri Duval était redevenu introuvable, donc il leur avait faussé compagnie. Encore une fois, bien Lorrain a remis quelques dollars à Valade pour couvrir ses frais de déplacement et pour comprendre qu'il fallait absolument ramener ce bonhomme-là parce que là maintenant il était considéré comme un suspect. Je vais vous épargner quelques détails, mais c'est le 10 décembre finalement, donc deux jours plus tard que Valade a fini par attraper Duval. Et encore une fois, il a répété la même histoire, donc il semblait y tenir aux morsures des seins et au fameux la présence de deux assassins. Donc, est-ce que ça donne de la crédibilité? Est-ce que c'est le docteur Marois plutôt qui a oublié de mentionner qu'il y avait des morsures au sein? Bref, il dira aussi avoir volé un gallon de whisky vers le 13 ou le 14 juillet avec un autre militaire du nom de Arthur Langevin. Ça, c'était un petit peu avant la disparition de Blanche Garneau. Leur plan prévoyait l'utilisation de courroies pour hisser cet alcool jusqu'à une fenêtre de la citadelle. Donc là, imaginez que c'est des soldats là, qui veulent sortir en douce, sans permission de leur supérieur, évidemment, et essayer d'avoir de l'alcool pour boire en cachette. En l'interrogeant de plus près, on a compris que le 22 juillet, donc le jour même de la disparition de Blanche Garneau, Duval aurait obtenu un laissez-passer pour une autre sortie en compagnie de Langevin, encore une fois. Cette fois-là, les deux hommes se seraient rendus au restaurant de Joe Bezo, situé au 311 rue Saint-Paul, où on vendait également des cigares. Les deux anciens combattants y auraient... Vous aurez compris que bon, Duval et Langevin étaient deux anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et on aurait vendu... Ils auraient vendu leurs décorations militaires pour ensuite marcher jusque chez Cloutier pour siffler quelques bières. Donc, pour boire, ben, ils ont vendu leurs décorations militaires. C'est pas fort. Par contre, c'est là qu'ils auraient fait la rencontre de deux hommes, un grand anglophone et un petit Canadien français. C'est comme ça que Duval va les décrire. Selon lui, l'Anglais aurait acheté une bouteille de brandy. Alors que le personnage de Langevin semblait s'évaporer soudainement du scénario, là, c'est comme s'il en perdait plus, on l'oublie. Donc, on imagine que Duval est seul à ce moment-là. Et là, Duval, ce serait là, il est interrogé à ce moment-là, c'est sa version qu'il donne. Duval se serait retrouvé dans une voiture de marque Chevrolet ou Ford avec ses deux nouveaux amis, donc l'anglophone et le petit Canadien français. Après un passage au terrain de l'exposition, ils ont roulé sur un pont qui les a emmenés au cœur du parc Victoria. Et là, on est le 22 juillet, là, n'oubliez pas ça. Et probablement le soir, parce que là, c'est en fin de journée. Ils ont laissé leur véhicule pour s'éloigner à pied. Donc, on a trois individus le soir du 22 juillet à pied dans le parc Victoria. Par contre, Duval était tellement saoul qu'il a dû s'asseoir à un moment donné. Donc, est-ce que ça mine un peu sa crédibilité? Ben, je pense que oui, jusqu'à un certain... Mais c'est de savoir jusqu'à quel point. C'est ça le problème. Tandis que le grand anglophone, lui, s'est dirigé à la rencontre d'une jeune femme qui s'en venait dans le parc. Sans même lui parler, il l'aurait empoignée violemment. La fille, après avoir crié « Oh mon Dieu! » serait tombé à la renverse, sa tête a heurté un rail de tramway. Les deux hommes l'auraient ensuite traîné dans les broussailles et les détectives ont deviné évidemment le reste du drame. Donc ici, je m'arrête brièvement dans la description que Duval fait du crime. Il y a quand même une certaine logique. Bon, les morsures au sein, ça semble pas logique, on oublie ça. C'est peut-être un de ses fantasmes, je sais pas. Mais qu'elle ait été agressée directement sur la voie ferrée et emmenée dans les Beaux-Seuils, eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça colle pas mal plus au témoignage du jeune homme qui avait parlé d'un sentier un peu tapé là, dans les Beaux-Seuils. Et aussi, le fait que Blanche Garneau se soit heurté la tête sur un rail de tramway, ben, ça correspondrait peut-être avec la fracture du crâne qu'elle a eue. Donc, c'est peut-être pas un coup qu'elle a eu après avoir été enlevée. C'est peut-être le fait qu'elle soit tombée. C'est possible, tomber en se débattant. Et après ça, ben, est-ce que c'est possible qu'elle ait été plus ou moins consciente et c'est à ce moment-là qu'on l'aurait agressée, qu'on aurait remonté ses vêtements pour la violer? Et pendant le viol, par exemple, parce qu'elle aurait commencé à se réveiller, là, je dis mon hypothèse, là, d'après les éléments qu'on a, mais si elle a commencé à se réveiller tranquillement pour se mettre à crier, on se souviendra que le docteur Marois avait parlé de traces qui laissaient croire que l'agresseur avait mis sa main sur la bouche de Blanche Garneau. C'est possible. Et ensuite, l'étranglement s'est poursuivi, donc... À la fois la blessure au crâne et l'étranglement, ben ça pourrait s'expliquer, ça collerait avec la version que donne Henri Duval. Et évidemment, pour avoir assisté à l'enquête du coroner, ben Lorrain, là, il l'avait devant lui. Lorrain savait que cette histoire de chute sur le rail pouvait correspondre à la fêlure constatée à l'arrière du crâne. Et quand il a entendu Duval ajouter que la victime portait une robe indienne noire et blanc, il s'est dit là que l'ex-soldat ne pouvait pas avoir inventé ce détail. Donc, lui, il commençait vraiment à y croire. Donc, on a ici le directeur de la police provinciale qui commençait à croire la version d'Henri Duval à cause de la description des vêtements. Là, c'est vraiment ça apparemment qui l'aurait allumé. Mais là, je vous casse un punch tout de suite. Si vous vous rappelez, ben, la robe indienne, en tout cas, on n'a pas dit que c'était indienne, mais la robe noire et blanc, ou noire et blanche, avait été mentionnée dans les journaux. Donc, si on récapitule, la version de Tinoir mettait en scène ces deux individus qui déchiraient les vêtements de la victime pour la manger. Je dis ça entre guillemets. Ils y auraient passé l'un et l'autre déçus, donc ce que lui ajoute par contre et ce que la médecine légale de l'époque ne pouvait pas déterminer précisément, c'est qu'elle aurait été violée par les deux agresseurs, donc un double viol. Il a ajouté aussi qu'il est allé voir par la suite, après que le meurtre a été commis et que les deux agresseurs se soient éloignés, lui, il dit qu'il est allé voir pour constater que la fille était morte. Donc, il était trop tard, malheureusement. Au lieu d'intervenir pendant l'action, ben, malheureusement, il est arrivé trop tard. Et ce qui est le plus étrange, c'est qu'il a ajouté avoir trouvé un paquet, le fameux paquet que Blanche transportait le soir de sa disparition. Et il a dit qu'il l'a ouvert, qu'il a découvert un drap et qu'il s'en est servi pour la recouvrir. Donc, c'est lui qui l'aurait recouverte avec le drap blanc. Est-ce que c'est vrai? C'est difficile à dire à cette étape-là. Mais, bon, c'est surprenant, disons. Et c'est en voyant les morsures au sein qu'il avait quitté les lieux pour retourner finalement à la citadelle et n'en ressortir que le 28 juillet. Et ça correspondait en plus avec la journée où le corps était retrouvé dans le parc. Et bon, voilà, on se retrouve avec une nouvelle piste, tout simplement un revirement de situation, un gars qu'on retrouve à Montréal, mais qui était soldat à Québec au moment des événements, nous apporte ça. Est-ce que c'est vrai? Jusqu'à quel point on pourra le confondre? Est-ce qu'on lui fera un procès? Donc voilà, c'est quand même étonnant. Parce que pour connaître autant de détails, soit qu'il était là, mais aussi, souvenez-vous, là, les détectives de l'époque ont semblé oublier cet aspect-là, mais les journaux ont quasiment tout dévoilé de la scène de crime et du crime en lui-même.